Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous et bonne fête, Chag Sameach. Nous sommes encore dans la fête de Sukkot. On est dans cette période qui s'appelle Chol HaMoed, ça veut dire, certains l'appellent demi-fête. C'est une période de fête. Il y a des lois de fête, de toutes les fêtes. Pendant ces fêtes, il y a des travaux interdits. Les demi-fêtes, alors, normalement, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais il y a certaines choses qu'on évite pour être dans la fête et pas dans le problème de tous les jours. Ce qu'on peut éviter, par exemple, faire des choses qu'on peut faire avant la fête, comme couper les cheveux ou d'autres choses, et il faut le faire avant la fête et laisser la fête quelque part tranquille. On peut faire des travaux les demi-fêtes, mais ça s'appelle les travaux que si je vais pas les faire pendant la fête, je vais perdre. Mais tout ce qu'on peut attendre, il faut attendre jusqu'à après la fête, parce que les fêtes en général, donc quand je parle ici des demi-fêtes, il faut profiter pour la joie et ne pas faire des choses qu'on fait tous les jours. Et il y a des détails, mais on est dans l'idée générale. On est quand même dans la fête de Sukkot. Et au milieu de la fête de Sukkot, on se prête à la dernière fête, tout de suite après Sukkot, mais à la suite de Sukkot, qui s'appelle Shmini Atzeret, ou bien Simchat Torah. Alors, c'est le moment de faire un petit point de ce qu'on a parlé pendant cette période. La semaine dernière, on a parlé du fait qu'au niveau historique, il n'y a pas de rapport entre Rosh Hashanah et Kippour d'un côté, et Sukkot et Shmini Atzeret de l'autre côté. Rosh Hashanah et Kippour, au niveau historique, c'est la période de jugement, la période où Hashem nous juge, et on est sûr qu'il nous donne une bonne année. Et au niveau historique, donc, c'est la première fois où Dieu il a jugé l'homme, c'était le jour qui correspond à cette date de Rosh Hashanah. Et le jour de pardon, la première fois où il est marqué dans la Torah, le pardon, donc c'était cette période de ce jour de Kippour. Donc c'était fixé comme des jours de jugement, et ça dure des jours, et le jour de pardon, et le jour de miséricorde, donc le jour où Dieu nous signe une bonne et douce année. Sukkot, par contre, c'est une histoire qui est liée avec la sortie de l'Égypte. C'est la suite de la sortie de l'Égypte, mais on a fixé cette période, même si c'est plutôt à la suite de la sortie de l'Égypte. Et ce qui correspond, ça correspond à cette idée de protection que les Juifs, ceux qui ont sorti de l'Égypte, ils ont été dans le désert. Dans le désert, la vie n'est pas facile. Et donc, il y avait une notion de protection qui protège du froid et du chaud, qui protège de la pluie et de chaleur, du soleil. Et pour se rappeler de ça, on sait tout ce qui peut être mauvais. Et pour nous rappeler de ça, on a fixé la fête de Sukkot. Donc, alors, c'est une belle histoire, mais est-ce qu'il y a un rapport entre Rosh Hashanah Kippour et Sukkot? Et on voit bien que si. Parce que dans le livre, surtout dans le livre kabbalistique, on voit que c'est un ensemble qui commence par Rosh Hashanah et se termine par Shmini Atzeret Simchat Torah, et même plus, ça commence par Elul, et ça se termine cette période, et si on veut encore, ça commence encore beaucoup avant, on peut voir que toute l'année, c'est un ensemble, c'est ensuite. Donc l'idée de ce qu'on a développé, c'est que, effectivement, Sukkot, c'est la suite de Rosh Hashanah et Kippour. Et quelque part, comme dit son nom, Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Donc, il est à la tête de l'année. Dans la tête, il y a tout le corps. Et aussi, le jour de Rosh Hashanah, il y a toute la suite de l'année. Donc, alors, on sait que Rosh Hashanah, non seulement qu'on est jugé, mais aussi c'est le jour où Dieu nous prévoit. Et pas seulement que Dieu nous prévoit, il nous met en œuvre tout ce qui va se passer cette année. Jusqu'à Kippour, il y a encore des détails qui se sont rajoutés, mais l'essentiel c'est Rosh Hashanah. Mais on dit comme ça que petit à petit, ce qui était dit, ce qui était prévu, ce qui était mis en place en Rosh Hashanah, ça se développe encore et encore jusqu'à l'idée de Sukkot et jusqu'à là où après on va vraiment vers les détails de l'année. Mais tout ça, ça rentre dans cette période de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est d'une façon encore très générale et très potentielle. Et ensuite, ça se développe encore le jour de Kippour, et ça se développe encore le jour de Sukkot. Et ensuite, ça se termine le dernier jour de Sukkot, mais quelque part aussi, ça se termine encore, encore un détail important, le jour de Shmini Atzeret. Et ensuite, on va vers l'année où tout ce qui a été mis en place le jour de Rosh Hashanah et qui a été développé cette période depuis Rosh Hashanah jusqu'à le dernier jour de Shmini Atzeret. Et donc, tout ça, ça se développe à la suite de l'année. Et il y a quelque chose qui est marqué aussi dans le Chassidut, on apporte, qu'on voit les rapports, parce qu'il est marqué que Sukkot, c'est la période, comme on a dit tout à l'heure, où on est assis dans la soukha, on mange dans la soukha, on boit dans la soukha. Normalement, selon la loi, il faut aussi dormir dans la soukha, même si ce n'est pas notre habitude Chabad, pour une certaine raison, qu'on ne va pas développer maintenant. Mais tout ce qu'on fait, on fait dans la soukha, si possible, s'il n'y a pas de quelque chose qui nous dérange. S'il y a un problème qui nous dérange, on est mal dans la soukha, soit parce qu'il pleut, soit pour d'autres raisons que ça nous rend mal à l'aise. Donc il y a des détails là aussi. Alors on a le droit de quitter la soukha, même si que donc, selon l'habitude Chabad, on reste quand même dans la soukha, à boire et à manger, même si qu'il pleut. Mais en tout cas, pour revenir, dans la soukha, on est assis pendant cette période de Sukkot. Et l'essentiel de la soukha, c'est il y a le mur, bien sûr, mais surtout, il y a le toit. Il y a beaucoup de lois par rapport au toit, moins de lois par rapport au mur, sauf que le mur doit être stable. Mais sinon, il y a des lois par rapport au soukha, avec quoi on peut, avec les schar, donc avec le toit, avec quoi on peut mettre les schar, et ce qu'on ne peut pas utiliser pour schar. Et donc, alors, l'essentiel de la soukha, c'est plutôt le mot schar. Schar, ça veut dire le toit. On met le toit par quelque chose végétal, par contre, pas de fruits, pas de légumes, de végétaux, plutôt ce qu'on jette, ce qu'on n'utilise pas. Donc, c'est le reste des fruits. Le reste des légumes, ça veut dire pas les plus sûrs, plutôt les feuilles ou bien les arbres. C'est ça qu'on met sur la soukha. En tout cas, pour revenir, il est marqué comme ça le mot schar, c'est trois lettres. D'ailleurs, ça ressemble au mot soukha, parce que l'essentiel de la soukha, c'est le schar. Le schar, donc, c'est le toit qu'on utilise pour la soukha. Dans le mot schar, on trouve le chiffre 100, puisque samach, ça fait 60, parce que les lettres hébraïques sont aussi des chiffres. Donc, samach, c'est 60. Chaf et Chaf, c'est 20 et 20, donc ça fait 100. Quel rapport avec Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah aussi, on a sonné, c'est notre tradition, 100 fois. Ça veut dire 100 fois, la première fois qu'on sonne, il y a déjà 30. Et ensuite, encore 30, encore 30, encore 30, encore 10, selon le calcul. Donc on arrive à, on sonne 100 voix. Et il est marqué que de ces voix de Rosh Hashanah, les voix de Rosh Hashanah devient le toit de Sukkot. Quel rapport entre voix et toit? Alors, le rapport, c'est que chaque chose spirituelle, il peut être en origine pour les choses matérielles seulement, qu'ils doivent se matérialiser. Alors là aussi, il faut comprendre pas mal de choses, mais on a des exemples. On a des exemples, une graine que je mets dans la terre. Dans la graine, je ne vois pas tout cet arbre qui va pousser à partir de là, même si on considère que c'est la graine et la terre, mais on ne trouve pas tout cet développement. Donc on considère la graine comme plutôt spirituelle, peut-être pas la graine est spirituelle, mais le potentiel de l'arbre est spirituel. Ensuite, il se développe, il devient un arbre matériel, donc alors la spirituelle, quelque part, parce que ce n'est pas exact, normalement on dit que c'est comme une notion de yesh me'ayin, quelque chose de rien, mais en tout cas, là aussi c'est des sujets qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. En tout cas, quelque part on considère que le spirituel est la source de la matérielle. Et quelque part on considère aussi que Rosh Hashanah, c'est quelque part l'origine de Kippour, ensuite de Sukkot. Ça veut dire que mais Kippour, le développement, on a dit tout à l'heure que Kippour c'est le développement de Rosh Hashanah, et Sukkot c'est encore plus développé ce qui a été développé Yom Kippour. Ça veut dire que d'une façon générale, Rosh Hashanah, il y a quelque chose qui a été mis en place, mais cette idée va se développer Kippour, et elle va se développer encore plus, ça va se matérialiser encore le jour de Sukkot. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est une voie. Donc, les mitzvot des jours, c'est plutôt les voies. Sukkot, Kippour, c'est déjà quelque chose qu'on peut voir. C'est la fumée. Dans le temple, il y avait une fumée. Ça, c'était le summum de Yom Kippour, que lorsqu'on amenait ce que s'appelle l'essence, peut-être je prononce mal, ce ktoret, on a mis à l'intérieur de Saint des Saints, c'est devenu de la fumée. Et ensuite, Sukkot, ça devient déjà quelque chose de matériel. Encore, c'est des notions qu'il faut développer. Le rapport entre la voix et ce qu'on voit. La voix, ça veut dire la voix qu'on chante, ou bien qu'on dit, ou qu'on entend quelque chose. Et ensuite, ce qu'on voit, mais on ne peut pas toucher. Et ensuite, ce qu'on arrive déjà à toucher, c'est un développement des idées qu'au début il est trop spirituel, ensuite il devient un petit peu moins spirituel, et ensuite ça devient quelque chose carrément de matériel. Et c'est ça un petit peu l'idée de ces trois fêtes. Rosh Hashanah, donc ça reste encore très spirituel, et encore très potentiel, c'est loin encore d'être développé. Kippour, c'est déjà plus développé, mais ça reste encore un jour spirituel, donc ça veut dire que les choses sont encore plus proches de son origine que le développement, mais il y a déjà le développement d'une certaine manière, comme on peut dire de quelque chose qu'on voit par rapport à quelque chose qu'on entend. Et ensuite, il y a Sukkot, que comme on a dit tout à l'heure, que c'est le même le son sonnerie de chauffard devienne le schar, qui est aussi le chiffre son, comme on a vu tout à l'heure. Alors à ce moment-là, ça nous montre cette idée que les choses spirituelles se développent jusqu'à le moment où ça devient quelque chose de très matériel. Ok, c'est des mots un peu, comme je répète, des mots qu'il faut expliquer un petit peu mieux, mais juste pour lancer, de savoir de quelle est la vision, comment on regarde sur l'idée de Sukkot. Donc, alors, Sukkot, selon l'esprit spirituel, c'est le développement de Rosh Hashanah. Et comme il est marqué déjà dans Tehilim, Bakesel Yom Chageinu, ce qui est caché Rosh Hashanah va se développer le jour de notre fête. Donc ça veut dire qu'on considère que c'est un ensemble. Et d'ailleurs, Sukkot, donc ça c'est une idée très générale que ça devient plus matériel. Et ensuite, les jours de Sukkot même, c'est 7 jours, comme les 7 jours de la semaine, donc ça se développe. Et il y a beaucoup de détails dans les 7 jours de la semaine, dans les 7 jours de Sukkot, comme il est marqué, que c'est lié avec tel invité ou shpizin, comme ça s'appelle en araméen, et les premiers jours est lié avec Avraham, et dans le chassidut on explique que c'est cette notion, que chaque jour il y a une autre notion, et petit à petit ça se développe, jusqu'au dernier jour de Sukkot, que c'est lié avec le roi David, que lui il a matérialisé le projet de la terre d'Israël, le projet du judaïsme, il a matérialisé, il a installé, c'est lui l'origine de Jérusalem, etc., etc. Donc alors, quelque part, on considère que les 7 jours de Sukkot, c'est des choses que jour après jour matérialisent les projets, et jusqu'à le dernier jour de Sukkot, qu'on arrivait quelque part au bout de ces développements, prêts à sortir, à partir vers une nouvelle année après les développements. Ensuite, il y a Shmini Atzeret qu'on va parler tout à l'heure, qu'est-ce que ça représente. Et d'une façon générale, on peut dire comme ça qu'il y a, ce que s'appelle général, détail et général. Il y a, la Torah a été marquée de telle manière que tout d'abord, tout a été donné d'une façon très générale. Et ensuite, c'est détaillé. On le voit dans plusieurs choses. Déjà, quelqu'un qui lit la Torah, il voit les choses, je ne parle pas de l'histoire de la Torah, même ce que c'est vrai aussi pour l'histoire de la Torah, mais je parle surtout des lois de la Torah. Il va voir les lois de la Torah, il va voir les choses d'une façon très très générale. Et ensuite, de la Mishnah, donc le livre qui a été écrit plusieurs siècles après les dons de la Torah, qui nous donne, qui nous explique déjà qu'est-ce que veut dire la Torah, parce que la Torah nous dit d'une façon très générale, mais les tefillines, c'est quoi les tefillines, tous ces détails, comment, quoi. Donc, ou bien beaucoup d'autres, toutes les lois de la Torah ne sont pas détaillées dans la Torah. Alors, c'était donné par, soit par tradition à Moshe, soit par la façon comment la Torah nous a montré comment il faut savoir développer et comprendre la Torah. Donc, alors, la Torah était mise de telle manière que tout d'abord, elle était donnée d'une façon générale, et ensuite, elle a commencé à être détaillée. Et ensuite, quand on va plus loin, plus tard dans le temps, et plus loin, on voit encore des détails. Le Talmud, par rapport à la Mishnah, il y a beaucoup de détails déjà. Et ensuite, tout s'explique le Talmud par rapport au Talmud, on trouve encore des détails, encore des développements. Encore énormément de détails. Plus qu'on va vers les générations à venir, plus qu'on trouve des détails qu'avant c'était d'une façon générale. Donc alors, la Torah était marquée de telle manière, même avant, au début la Torah était donnée par les 10 commandements. Les 10 commandements c'est quelque chose de général, qu'en lui il y a les détails, seulement que c'était donné d'une façon générale, et ensuite c'était donné d'une façon détaillée. Il est marqué dans le Talmud, il est marqué que l'homme il doit enseigner à ses élèves d'une façon courte pour qu'ils comprennent. Et on explique dans la Chassidut que c'est comme ça qu'il faut, si on veut obtenir de mieux le mieux de nos élèves, il faut enseigner tout d'abord le général, et ensuite les détails, et ensuite le général. Ça veut dire que tout d'abord, on parle plutôt de général et de détails, mais apparemment, il faut rajouter aussi le général qu'il y a à la fin. Il me semble qu'on peut expliquer comme ça, on peut comme ça expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Shmini Atzeret. Donc, le général, quand je veux faire un discours compliqué, c'est un sujet compliqué. Donc, si je veux tout de suite attaquer les détails, alors les gens, pas forcément qu'ils vont pouvoir suivre, parce que dans ma tête, je vois les rapports entre les détails, mais dans leur tête, ils vont voir beaucoup de détails, ils ne vont pas forcément comprendre les liens entre les détails. Là aussi, il faut expliquer, il faut donner des preuves, il faut donner des exemples, vous pouvez tester par vous-même. Alors, si c'est les choses simples, alors peut-être on ne les voit pas, mais si les choses sont compliquées, et surtout s'il y a une distance ou bien il y a des niveaux différents entre les maîtres et les élèves, alors c'est sûr que c'est comme ça. Pour qu'ils puissent le suivre, il faut donner le sujet vers où je vais avec ce discours, avec cette conférence, et ensuite en détail, alors les gens ils comprennent le rapport entre chaque détail qui va être dit et les notions générales qui étaient données avant. Mais une fois que j'ai déjà terminé le général, ensuite j'ai détaillé, il faut revenir en général, quelque part, et comme ça, les choses sont compréhensibles. Il y a beaucoup de détails, mais les détails, ils sont entourés par le poids. Dans la Kabbale, ça s'appelle Nekuda Beichala. Ça veut dire, et chaque chose, beaucoup de détails, ils ont des poids. Mais il faut voir les poids. Si je parle les poids des détails. Alors, en vérité, je n'ai pas compris les détails. J'ai un ensemble des idées, mais ce n'est pas une idée. Et normalement, un discours ou bien une idée qu'on développe, c'est une idée, ce n'est pas plusieurs idées. Et on peut encore parler de ça. Donc, alors, si on revient, on reprend cette idée par rapport à nous, par rapport à cette idée de Rosh Hashanah qui pour Sukkot et ensuite Shmini Atzeret. Alors, il me semble, parce que c'est ça vérifié, mais il me semble que comme ça, on peut comprendre la chassidoute, que Rosh Hashanah, c'est un général. Il y a tout ce qui va être cette année, mais il se trouve d'une façon très, très générale dans la tête de l'année Rosh Hashanah. Parfois, malheureusement, quelqu'un il a un problème avec ses pieds, avec les mains, et on cherche dans le cerveau. Et quand on voit un poids dans le cerveau, on se dit, oh, il y a un problème avec ce poids, qu'à cause de ce poids, il y a un problème de tout le corps. Alors, ce poids, c'est un poids, mais ce poids, il se trouve dans le cerveau. Il peut parfois déranger. Donc, alors, c'est qu'un poids dans le cerveau devient, ça peut, en tout cas, influencer le développement dans le reste du corps. Donc Rosh Hashanah, c'est pareil, quand on appelle Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, c'est parce que dans la tête de l'année, toute cette année se trouve comme un poids. Mais ensuite, comme on a dit tout à l'heure, on développe. On développe dans deux manières. On développe que le spirituel devient matériel, et ensuite que le matériel se détaille. Donc c'est un petit peu Kippour, et ensuite Sukkot. Kippour, on a matérialisé un petit peu les choses, mais ça reste quand même spirituel, comme le sens de Kippour, que ça reste toujours spirituel. Et ensuite, Sukkot, c'est déjà un jour de joie, un jour en fait des choses terrestres. Il faut bien manger, il faut bien boire, il faut faire les choses qui nous rendent joyeux, c'est un devoir. Et donc, Sukkot, c'est plutôt, on a matérialisé l'idée, mais on développe l'idée. Et après, donc, alors on a déjà l'idée de général et de détail. Après ça, il y a un jour qui conclut et clôture cette période, qui s'appelle Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, il n'est pas marqué dans la Torah ce qu'il faut faire. Il est marqué dans la Torah qu'il faut se réjouir, il faut arrêter. Donc il faut arrêter. Il est marqué Atzeret. Rashi explique Atzeret, la notion d'Atzeret. Il y a d'autres notions, mais Rashi explique. C'est comme un roi qui, après une période, un roi qui a réuni ses enfants pour un but, pour le travail, pour diriger le pays, pour un but. Et ensuite, après qu'il a terminé, quelque part, le réunion de travail qui a duré un certain temps, il dit, restez encore un jour avec moi. Et aujourd'hui, donc, c'est pas en tant que dirigeant de pays, en tant qu'un père et fils. Et là aussi, c'est un petit peu l'idée de Shmini Atzeret. Rosh Hashanah Kippour Sukkot, c'est plutôt celui qui prépare l'année. Et Shmini Atzeret, c'est quelque part, c'est très intime. Et on est joyeux avec Dieu, et Dieu, il est joyeux, donc il réjouit avec nous. Mais d'une autre part, dans le chassidut explique que le mot Atzeret va dire aussi Atzeret comme quelqu'un qui consacre, quelque chose qui est concentré. Ça veut dire qu'on est le concentré de quelque chose. Et le concentré, c'est un petit peu l'idée de général. Ça veut dire qu'après avoir les détails, on se concentre dans le général avant de commencer vraiment l'année, qu'à ce moment-là, on est dans les détails. Donc, comme l'idée qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a général, détail général. Donc, Rosh Hashanah, c'est le général. Et Kippour, c'est plus en détail. Sukkot, c'est encore plus de détails. Ça veut dire qu'on développe l'idée de Rosh Hashanah. Et ensuite, on arrive à cette période de Shmini Atzeret, où c'est les jours qui consacrent tout ce qu'il y avait avant d'attaquer, avant de partir vers l'année normale. Maintenant, ça c'est un petit peu un petit résumé par rapport à ce qu'il me semble marqué dans la chassidoute, ce que c'est ce jour, et surtout le jour de Shmini Atzeret. Ensuite, dans les générations d'après, on a rajouté comment on se réjouit le jour de Shmini Atzeret, il n'est même pas marqué dans la Torah. Il est marqué que c'est un jour de fête. Les autres fêtes, il est marqué plutôt, il faut faire ci, il faut faire ça. Ici, il n'est pas marqué. Mais on a l'habitude de... On a pris l'habitude de réjouir, de se réjouir d'une manière qui s'appelle Simchat Torah. Donc, on lit la fin de la lecture de la Torah avec Shmini Atzeret. Donc, il est marqué d'ailleurs qu'on devrait terminer la lecture de la Torah, parce qu'on lit la Torah toute l'année, et depuis le premier paracha, la première paracha jusqu'à la dernière paracha, et le jour où on termine la lecture de la Torah, c'est un jour de fête. Il est marqué qu'on devrait le terminer à la fin de l'année, avant Rosh Hashanah, et commencer avec Rosh Hashanah, mais pour une certaine raison, que là aussi je ne vais pas rentrer, le balbel est à Satan, mais en tout cas, on ne le fait pas comme ça. Finalement, on a l'habitude de faire, de lire la fin de la Torah, le jour même de Shmini Atzeret, et en même temps, on recommence la Torah. Et ça devient un jour de Simchat Torah. Au dehors d'Israël, on a l'habitude de faire un jour, donc on n'a pas deux jours de fête, on a un jour de fête, donc Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est le même jour. Ici, au dehors d'Israël, on a l'habitude de faire deux jours. Donc, Shmini Atzeret, on l'appelle, c'est le jour, quelque part, le huitième jour de Sukkot. Et Simchat Torah, c'est le neuvième jour de Sukkot. Ce qu'on fait Shmini Atzeret, on ne fait pas Simchat Torah. Et ce qu'on fait Simchat Torah, c'est ce qu'on connaît, par Akafot. Ça veut dire que puisque c'est le jour où on termine la Torah, on prend le Sefer Torah, on danse avec la Torah. Alors, l'habitude de danser avec la Torah, alors, c'est le soir de Simchat Torah et le lendemain de Simchat Torah. C'est vrai qu'il y a beaucoup de traditions. Combien de fois on tourne, on fait cette danse. Et nous, en fait, beaucoup de communautés, ils font, en dehors d'Israël, ils font le soir de Simchat Torah et le lendemain. Et non, quel est le soir de Simchat Torah? En Israël, plutôt, ils ont l'habitude de faire le soir de Shmini Atzeret. Le jour de Shmini Atzeret, ça correspond aujourd'hui avec mercredi soir, jeudi matin. Et il y a cette habitude kabbalistique de refaire, et cette fois-ci on fait avec de la musique, puisque chez eux c'est après la fête. On fait donc Motsei Yom Tov, ça veut dire jeudi soir. Nous, en dehors d'Israël, on a l'habitude de faire Simchat Torah jeudi soir. Certains se tombent jeudi soir, et dans les communautés chassidiques comme nous, au Chabad, et ici il y a des gens aussi, on a l'habitude de faire déjà à Kafot le mercredi soir, mais on le fait assez rapidement, et l'essentiel on fait le jeudi soir. Et ensuite on a aussi l'habitude de refaire vendredi, mais ça c'est une petite akafa de 3,5. Je vais expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est akafa. Et ensuite, ça c'est l'habitude de tout le monde, que tout le monde monte à la Torah. Et parce que normalement, il y a 7 personnes qui montent à la Torah, 8 personnes qui montent à la Torah, ou bien ça dépend des fêtes, des jours, de quel jour. Mais par contre, le jour de Simchat Torah, tout le monde monte à la Torah. Il y a ceux qui montent un après l'autre, il y a ceux qui montent ensemble. En tout cas, tout le monde monte à la Torah. Et il y a celui qui termine la Torah, qui s'appelle Chatan Torah. Et c'est lui qui commence la Torah, qui s'appelle Chatan Bereshit. Donc on termine et on commence la Torah. Et autour de ça, on danse. Surtout le soir, on danse avec la Torah. Et la Chassidut explique, le rabbi précédent surtout explique, qu'on danse avec la Torah fermée. Et ça va ensemble avec l'idée que la Torah, il y a beaucoup de détails dans la Torah. Mais... parce que la Torah, elle est construite sur l'idée des détails. Il y a tel détail, tel détail, tel détail. Mais puisque Simchat Torah, c'est un jour qui concentre tout, donc on danse avec la Torah fermée. Il y a beaucoup d'explications autour de cette idée de pourquoi on danse avec la Torah fermée, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a l'habitude. On étudie Mora. Le jour de Simchat Torah, on l'utilise pour les danses. Et le rabbi précédent disait que le juif qui danse avec la Torah, il est comme le pied de la Torah. La Torah, elle a envie de danser. Comme ça, il dit, ça aussi, ça a besoin d'une explication. Mais en tout cas, c'est un jour où on n'étudie pas beaucoup. Surtout, on se réjouit avec la Torah en dansant. Maintenant, il y a, le rabbi explique l'idée des pieds, parce que la joie, c'est quelque chose qui arrive jusqu'aux pieds. Et la qualité des pieds, un lien avec le jour de Simchat Torah, surtout que la Torah, elle est très intellect, mais elle nous demande de réagir jusqu'à pied. Ça veut dire réagir au niveau matériel. Maintenant, pour encore quelque chose, on a l'habitude de faire akafot. Akafot, ça veut dire tourner autour de la table principale, là où on lit la Torah. On tourne 7 fois. Il y a 7 akafot. Chaque akafa, chaque fois on tourne, on dit des paroles spéciales qui correspondent à cette idée. Et chaque fois, on danse beaucoup entre une akafa et l'autre. Et ça s'appelle akafa. D'ailleurs, depuis Sukkot, on fait les akafot. Donc, on tourne autour de la table avec le Sefer Torah au milieu. Mais ce n'est pas l'idée principale de Sukkot, c'est un rajout. Par contre, Simchat Torah, c'est l'essentiel de Simchat Torah qu'on danse avec la Torah autour des livres. Et là aussi, on arrive à cette idée qui a besoin aussi de développement, mais juste le point, ce qu'on a parlé par rapport à Sukkot, que Sukkot, c'est une idée, dans la vie, il y a 2 notions. Il y a ce qu'on arrive à intégrer en nous. Quelque chose que j'ai compris, donc j'ai compris, je l'ai. Il y a des choses que je n'ai pas compris, je ne l'ai pas, mais c'est autour de moi. Il y a parfois où il y a des choses que j'ai étudié quelque chose, j'arrive à comprendre, j'arrive à expliquer, c'est une partie de moi-même. Je comprends, je suis convaincu. Mais il y a une idée que je le sens, mais ce n'est pas à l'intérieur de moi. Et dans la vie juive, il y a beaucoup de choses que la Torah nous demande d'intégrer. Mais après qu'on arrive à intégrer certaines idées, il y a toujours des choses qui sont autour de moi. Comme dans tout le monde intellectuel, qu'il y a des choses que j'arrive à comprendre, et il y a des choses que je n'arrivais pas encore à comprendre. Et quelque part, quelqu'un m'a dit cette phrase la semaine dernière, que dans le judaïsme, on est plutôt dans la non-compréhension que la compréhension. Toujours on arrive à ne pas comprendre quelque chose. Parce que, on arrive à comprendre, bien sûr, parce que la Torah, elle est intellectuelle, donc on arrive à comprendre, mais toujours on touche le niveau supérieur. Ah, j'ai compris jusqu'à là, mais à ce moment-là, j'ai découvert encore quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Et je vais arriver peut-être à comprendre la prochaine fois, mais à ce moment-là, je vais avoir quelque chose qui est autour de moi. Quelque part, c'est un petit peu ça l'idée de Akafot, c'est quelque chose qui tourne autour de moi, mais ça tourne le poids. Et c'est ça l'idée qu'on peut dire un petit peu que la Torah, elle a deux manières. D'une part, c'est une compréhension, une logique très profonde, mais en même temps très accessible, parce que l'idée de la Torah, c'est de comprendre. Mais d'une autre part, toujours une fois que j'ai compris, il y a quelque chose autour de moi. En tout cas, on a parlé de beaucoup de détails et que chacun a besoin de développement. Mais l'essentiel, comme on sait que le jour de Simchat Torah, c'est comme toute chose dans le judaïsme, l'acte, c'est le plus important, faire ce que la Torah nous demande. Ou bien, comme l'akafot, c'est une habitude, donc faire ça, alors essayez de vous déplacer, d'aller à la synagogue pour pouvoir participer à ces akafot, surtout le jeudi soir, et aussi vendredi matin, chez nous on le fait vers midi quand même, au Beit Chabad, mais en tout cas, chaque synagogue le fait à sa manière, mais on fait la même chose, parce que c'est le même judaïsme, participer, monter à la Torah, danser avec la Torah, surtout que cette année, ça présente, en tout cas dans la date hébraïque, même si que c'était Shmini Atzeret, le grand massacre de 7 octobre, et dans le monde juif, il y a une notion de tristesse, mais ce qui gagne plutôt, c'est l'espoir, c'est la joie qui gagne la tristesse. Donc alors, il y avait le 7 octobre qu'on a plutôt été dans cet esprit de chagrin, mais l'idée de Simchat Torah doit rester Simchat Torah, donc Shmini Atzeret c'est plutôt jeudi, mais le jour de Simchat Torah où en Israël c'est jeudi, chez nous c'est vendredi, donc c'est à la mémoire de tous ces victimes. Depuis un an, c'est bien de faire un effort, de venir, c'est pas un effort, c'est un choix, de participer à Am Israël, à tout le peuple d'Israël qui est vivant, Am Israël Chai, donc participer à la synagogue, dans la synagogue, participer à cette joie qu'Hachem nous donne une bonne année, une année de paix, une année de santé, une année de toutes les bonnes choses, une année de Mashiach. Merci beaucoup pour votre écoute. Chag Sameach et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.